Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir, nous nous retrouvons en fin de semaine pour la dernière lecture extraite du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. La voix du conseiller s'élevait d'un ton extraordinaire. Il déclamait « Le temps n'est plus, messieurs, où la discorde civile ensanglantait nos places publiques, où le propriétaire, le négociant, l'ouvrier lui-même, en s'endormant le soir d'un sommeil paisible, tremblait de se voir réveillé tout à coup au bruit des tocsins incendiaires, où les maximes les plus subversives sapaient audacieusement les bases. » C'est qu'on pourrait, reprit Rodolphe, m'apercevoir d'en bas, puis j'en aurais pour 15 jours à donner des excuses, et avec ma mauvaise réputation. Oh, vous vous calomniez, dit Emma. Non, non, elle est exécrable, je vous jure. Mais, messieurs, poursuivit le conseiller, que si, écartant de mon souvenir ces innombrables tableaux, je reporte mes yeux sur la situation actuelle de notre belle patrie, qu'y vois-je ? Partout fleurissent le commerce et les arts, partout des voies nouvelles de communication comme autant d'artères nouvelles dans le corps de l'État y établissent des rapports nouveaux. Nos grands centres manufacturiers ont repris leurs activités. La religion, plus affermie, sourit à tous les cœurs. Nos ports sont pleins, la confiance renaît et enfin la France respire. Du reste, ajouta Rodolphe, peut-être au point de vue du monde a-t-on raison. « Comment cela ? » fit-elle. « Et quoi ? » dit-il, « ne savez-vous pas qu'il y a des âmes sans cesse tourmentées ? Il leur faut tour à tour le rêve et l'action, la passion les plus dures, les jouissances les plus furieuses, et l'on se jette ainsi dans toutes sortes de fantaisies, de folies. » Alors elle le regarda comme on contemple un voyageur qui a passé par des pays extraordinaires, et elle reprit. « Oh, nous n'avons pas même cette distraction, nous autres, pauvres femmes. Triste distraction, car on n'y trouve pas le bonheur. Mais le trouve-t-on jamais ? Demanda-t-elle. Oui, il se rencontre un jour, répondit-il. Et c'est là ce que vous avez compris, disait le conseiller, vous, agriculteurs et ouvriers des campagnes, vous, pionniers pacifiques d'une œuvre toute de civilisation, vous, hommes de progrès et de moralité, vous avez compris, dis-je, que les orages politiques sont encore plus redoutables vraiment que les désordres de l'atmosphère. Il se rencontre un jour, répéta Rodolphe, un jour tout à coup, et quand on en désespérait. Alors des horizons s'entrouvent, et c'est comme une voix qui crie « Le voilà !» Vous sentez le besoin de faire à cette personne la confidence de votre vie, de lui donner tout, de lui sacrifier tout. On ne s'explique pas, on se devine. On s'est entrevu dans ses rêves. Et il la regardait. Enfin, il est là, ce trésor que l'on a tant cherché, là, devant vous, il brille, il étincelle. Cependant, on en doute encore, on ose y croire, on en reste ébloui comme si l'on sortait des ténèbres de la lumière. Et en achevant ces mots, Rodolphe ajouta la pantomime à sa phrase. Il se passa la main sur le visage, tel qu'un homme pris d'étourdissement, puis il la laissa retomber sur celle d'Emma. Elle retira la sienne. Mais le conseiller lisait toujours « Et qui s'en étonnerait, messieurs, celui-là seul qui serait assez aveugle, assez plongé, je ne crains pas de le dire, assez plongé dans les préjugés d'un autre âge pour méconnaître encore l'esprit des populations agricoles, ou trouver, en effet, plus de patriotisme que dans les campagnes, plus de dévouement à la cause publique, plus d'intelligence en un mot. Et je n'entends pas, messieurs, cette intelligence superficielle, vain ornement des esprits oisifs, mais plus de cette intelligence profonde et modérée qui s'applique par-dessus toute chose à poursuivre des buts utiles, contribuant ainsi au bien de chacun, à l'amélioration commune et au soutien des États, fruit du respect des lois et de la pratique des devoirs.
« Ah, encore !» dit Rodolphe. « Toujours les devoirs !» Je suis assommé de ces mots-là. Ils sont un tas de vieilles ganaches en gilet de flanelle et des bigotes à chaufferettes et à chapelets qui continuellement nous chantent aux oreilles « le devoir !» Et parbleu, le devoir, c'est de sentir ce qui est grand, de chérir ce qui est beau, et non pas d'accepter toutes les conventions de la société avec les ignominies qu'elle nous impose. Cependant, objectait Madame Bovary. Et non, pourquoi déclamer contre les passions? Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y ait sur la terre, la source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts, de tout, enfin? Mais il faut bien, dit Emma, suivre un peu l'opinion du monde et obéir à sa morale.
Ah, mais c'est qu'il y en a deux, répliqua-t-il. La petite, la convenue, celle des hommes, celle qui varie sans cesse et qui braille si fort, s'agite en bas, terre à terre, comme ce rassemblement d'imbéciles que vous voyez. Mais l'autre, l'éternelle, elle est tout autour et au-dessus, comme le paysage qui nous environne et le ciel bleu qui nous éclaire.
Monsieur Levin venait de s'essuyer la bouche avec son mouchoir de poche et il reprit.
Et qu'aurais-je à faire, messieurs, de vous démontrer ici l'utilité de l'agriculture? Qui donc pourvoit à nos besoins? Qui donc fournit à notre subsistance? N'est-ce pas l'agriculture? L'agriculture, messieurs, qui, en semençant d'une main laborieuse les sillons féconds des campagnes, fait naître le blé, lequel broyé est mis en poudre au moyen d'ingénieux appareils, en sort sous les noms de farine, et de là transporté dans les cités, et bientôt rendu chez le boulanger qui en confectionne un aliment pour le pauvre comme pour le riche. N'est-ce pas l'agriculture encore qui engraisse pour nos vêtements ces abondants troupeaux dans les pâturages? Car comment nous vêtirions-nous? Car comment nous nourririons-nous sans l'agriculture? Et même, messieurs, est-il besoin d'aller chercher si loin encore des exemples? Qui n'a souvent réfléchi à toute l'importance que l'on retire de ce modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un oreiller moelleux pour nos couches, sa chair succulente pour nos tables et des œufs? Mais je n'en finirais pas s'il fallait énumérer les uns après les autres les différents produits que la terre bien cultivée, telle qu'une mère généreuse, prodigue à ses enfants. Ici, c'est la vigne. Ailleurs, ce sont les pommiers à cidre. Là, le colza. Plus loin, les fromages. Et le lin, messieurs. N'oublions pas le lin qui a pris ces dernières années un accroissement considérable et sur lequel j'appellerai plus particulièrement votre attention. Il n'avait pas besoin de l'appeler, car toutes les bouches de la multitude se tenaient ouvertes, comme pour boire ses paroles. Tuvache, à côté de lui, l'écoutait en écarquillant des yeux. Monsieur Desroseraies, de temps à autre, fermait doucement les paupières. Et plus loin, le pharmacien, avec son fils Napoléon entre les jambes, bombait sa main contre son oreille pour ne pas perdre une seule syllabe. Les autres membres du jury balançaient lentement leurs mantons dans leurs gilets en signe d'approbation. Les pompiers au bas de l'estrade se reposaient sur leurs baïonnettes et Binet, immobile, restait le coude en dehors avec la pointe du sabre en l'air. Il entendait peut-être, mais il ne devait rien apercevoir à cause de la visière de son casque qui lui descendait sur le nez. Son lieutenant, le fils cadet du sieur Tuvache, avait encore exagéré le sien, car il en portait un énorme et qui lui vacillait sur la tête, en laissant dépasser un bout de son foulard d'indienne. Il souriait là-dessous avec une douceur tout enfantine, et sa petite figure pâle, où des gouttes ruisselaient, avait une expression de jouissance, d'accablement et de sommeil.
La place jusqu'aux maisons était comble de monde. On y voyait des gens accoudés à toutes les fenêtres, d'autres debout sur toutes les portes, et Justin, devant la devanture de la pharmacie, paraissait tout fixé dans la contemplation de ce qu'il regardait. Malgré le silence, la voix de M. Lieuvin se perdait dans l'air. Elle vous arrivait par lambeaux de phrases qu'interrompait ça et là le bruit des chaises dans la foule, puis on entendait tout à coup partir derrière soi un long mugissement de bœuf, ou bien les bêlements des agneaux qui se répondaient au coin des rues. En effet, les vachers et les bergers avaient poussé leurs bêtes jusque-là et elles beuglaient de temps à autre tout en arrachant avec leur langue quelques bribes de feuillage qui leur pendaient sur le museau. Rodolphe s'était approché d'Emma et il disait d'une voix basse en parlant vite « Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas ? Est-il un seul sentiment qu'il ne condamne ? Les instincts les plus nobles, les sympathies les plus pures sont persécutés, calomniés, et s'il se rencontre enfin deux pauvres âmes, tout est organisé pour qu'elles ne puissent se joindre. Elles essayeront cependant, elles battront des ailes, elles s'appelleront, oh, qu'importe ! Tôt ou tard, dans 6 mois, 10 ans, elles se réuniront, s'aimeront parce que la fatalité l'exige et qu'elles sont nées l'une pour l'autre. » Il se tenait les bras croisés sur ses genoux, et ainsi, levant la figure vers Emma, il la regardait de près, fixement. Elle distinguait dans ses yeux de petits rayons d'or, s'irradiant tout autour de ses pupilles noires, et même elle sentait le parfum de la pommade qui lustrait sa chevelure. Alors, une mollesse la saisit. Elle se rappela ce vicomte qu'il avait fait valser à Vaubyessard, et dont la barbe exhalait comme ses cheveux-là cette odeur de vanille et de citron. Et machinalement, elle entreferma les paupières pour mieux la respirer. Mais dans ce geste qu'elle fit en se cabrant sur sa chaise, elle aperçut au loin, tout au fond de l'horizon, la vieille diligence l'hirondelle qui descendait lentement la côte des Leux, entraînant après soi un long panache de poussière. C'était dans cette voiture que Léon, si souvent, était revenu vers elle. Et par cette route là-bas qu'il était parti pour toujours. Elle crut le voir en face à sa fenêtre, puis tout se confondit, des nuages passèrent, il lui sembla qu'elle tournait encore dans la valse sous le feu des lustres au bras du vicomte et que Léon n'était pas loin, qu'il allait venir. Cependant, elle sentait toujours la tête de Rodolphe à côté d'elle. La douceur de cette sensation pénétrait ainsi ses désirs d'autrefois, et comme des grains de sable sous un coup de vent, ils tourbillonnaient dans la bouffée subtile du parfum qui se répandait sur son âme. Elle ouvrit les narines à plusieurs reprises, fortement, pour aspirer la fraîcheur des lierres autour des chapiteaux. Elle retira ses gants, elle s'essuya les mains. Puis, avec son mouchoir, elle s'éventait la figure, tandis qu'à travers le battement de ses tempes, elle entendait la rumeur de la foule et la voix du conseiller qui psalmodiait ces phrases.
Je sais, tu es trop belle, et quand je m'approche de toi, comme l'insecte de la chandelle, ton cœur brûle mes ailes, ta peau brûle mes doigts. Pour ma joue sur ton corsage, pour la robe dont tu es vêtue, pour tes dentelles que je saccage, tu deviens l'image du paradis perdu. Du paradis perdu, tu es comme les statues qui ornent les églises. Sous leur poussière grise, elles dorment toutes nues. Tu es comme les statues trône dans les squares. Tu passes comme l'histoire, mais sans avoir vécu. Je sais que la rose se fane au contact de ta peau. Mais l'amour, c'est autre chose, c'est plus doux qu'une rose, c'est plus fort que ta peau. Je sais que le soleil se cache lorsque tu parais sous les nues. Mais il fallait que tu le saches, mon amour aussi se cache quand tu dors toute nue. Quand tu dors toute nue, tu es comme les statues qui ornent les églises. Sous leur poussière grise, elles dorment toutes nues. Tu es comme les statues qui trône dans les squares. Tu passes comme l'histoire, mais sans avoir vécu. Tu es comme les statues qui ornent les églises. Sous leur poussière grise, elles dorment toutes nues. Tu es comme les statues dans les squares, tu passes comme l'histoire, mais sans avoir vécu.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
Suite et fin pour nous cette semaine de ce roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. 6 semaines s'écoulèrent. Rodolphe ne revint pas. Un soir, enfin, il parut. N'y retournons pas de sitôt, ce serait une faute. Et, au bout de la semaine, il était parti pour la chasse. Après la chasse, il avait songé qu'il était trop tard, puis il fit ce raisonnement. Mais si du premier jour elle m'a aimé, elle doit, par l'impatience de me revoir, m'aimer davantage. Continuons donc. » Et il comprit que son calcul avait été bon lorsque, en entrant dans la salle, il aperçut Emma pâlir. Elle était seule. Le jour tombait. Les petits rideaux de mousseline le long des vitres épaississaient le crépuscule, et la dorure du baromètre sur qui frappait un rayon de soleil étalait des feux dans la glace entre les découpures du polypier. Rodolphe resta debout. Et à peine si Emma répondit à ses premières phrases de politesse. « Moi, dit-il, j'ai eu des affaires. J'ai été malade. Gravement ? » s'écria-t-elle. « Eh bien, fit Rodolphe en s'asseyant à ses côtés sur un tabouret, non. C'est que je n'ai pas voulu revenir. Pourquoi ? Vous ne le devinez pas ? » Il la regarda encore une fois, mais d'une façon si violente qu'elle baissa la tête en rougissant. Il reprit « Emma ».« Monsieur, » fit-elle en s'écartant un peu. « Ah, vous voyez bien, » répliqua-t-il d'une voix mélancolique, « que j'avais raison de vouloir ne pas revenir, car ce nom qui emplit mon âme et qui m'est échappé, vous me l'interdisez, Madame Bovary. » Et tout le monde vous appelle comme cela, ce n'est pas votre nom d'ailleurs, c'est le nom d'un autre. » Il répéta, « d'un autre. » Et il se cacha la figure entre les mains. « Oui, je pense à vous continuellement. Votre souvenir me désespère. Ah, pardon, je vous quitte, adieu, j'irai loin, si loin que vous n'entendrez plus parler de moi. Cependant, aujourd'hui, je ne sais quelle force encore m'a poussé vers vous, car... on ne lutte pas contre le ciel, on ne résiste point au sourire des anges, on se laisse entraîner par ce qui est beau, charmant, adorable. » C'était la première fois qu'Emma s'entendait dire ces choses. Et son orgueil, comme quelqu'un qui se délasse dans une étuve, s'étirait mollement et tout entier à la chaleur de ce langage. « Mais si je ne suis pas venu,
continua-t-il, si je n'ai pas pu vous voir, du moins j'ai bien contemplé ce qui vous entoure. La nuit, toutes les nuits, je me relevais, j'arrivais jusqu'ici, je regardais votre maison, le toit qui brillait sous la lune, les arbres du jardin qui se balançaient à votre fenêtre et une petite lampe, une lueur qui brillait à travers les carreaux dans l'ombre. Ah, vous ne saviez guère qu'il y avait là, si près et si loin, un pauvre misérable. Elle se tourna vers lui avec un sanglot. « Oh, vous êtes bon, » dit-elle. « Non, je vous aime, voilà tout. Vous n'en doutez pas, dites-le-moi un mot, un seul mot. » Et Rodolphe, insensiblement, se laissait glisser du tabouret jusqu'à terre. Mais on entendit un bruit de sabots dans la cuisine et la porte de la salle, il s'en aperçut, n'était pas fermée. « Que vous seriez charitable, » poursuivit-il en se relevant de satisfaire une fantaisie. C'était de visiter sa maison. Il désirait la connaître. Et Madame Bovary, n'y voyant point d'inconvénient, ils se levaient tous deux quand Charles entra. « Bonjour, docteur, » lui dit Rodolphe. Le médecin, flatté de ce titre inattendu, se répandit en obséquiosité, et l'autre en profita pour se remettre un peu. « Madame m'entretenait, fit-il donc, de sa santé. » Charles l'interrompit. Il avait mille inquiétudes, en effet, les oppressions de sa femme recommençaient. Alors Rodolphe demanda si l'exercice du cheval ne serait pas bon.
« Certes, excellent, parfait, voilà une idée, tu devrais la suivre. »
Et comme elle objectait qu'elle n'avait point de cheval, Monsieur Rodolphe en offrit un. Elle refusa ses offres, il n'insista pas. Puis, afin de motiver sa visite, il conta que son charretier, l'homme à la saignée, éprouvait toujours des étourdissements.
« J'y passerai, » dit Bovary. « Non, non, je vous l'enverrai. Nous reviendrons, ce sera plus commode pour vous. »
« Ah, fort bien, je vous remercie. » Et dès qu'ils furent seuls, « Pourquoi n'acceptes-tu pas les propositions de M. Boulanger qui sont si gracieuses ?» Elle prit un air boudeur, chercha mille excuses et déclara finalement que cela peut-être semblerait drôle.
« Ah, je ne m'en moque pas mal, » dit Charles en faisant une pirouette. « La santé avant tout, tu as tort. »
Et comment veux-tu que je monte à cheval puisque je n'ai pas d'Amazone ?
Mais il faut en commander une, répondit-il.
L'Amazone la décida. Quand le costume fut prêt, Charles écrivit à M. Boulanger que sa femme était à sa disposition et qu'il comptait sur sa complaisance. Le lendemain, à midi, Rodolphe arriva devant la porte de Charles avec deux chevaux de maître. L'un portait des pompons roses aux oreilles et une selle de femme en peau de daim. Rodolphe avait mis de longues bottes molles, se disant que sans doute elle n'en avait jamais vu de pareilles. En effet, Emma fut charmée de sa tournure lorsqu'il apparut sur le palier avec son grand habit de velours et sa culotte de tricot blanc. Elle était prête. Elle l'attendait. Justin s'échappa de la pharmacie pour la voir. Et l'apothicaire aussi se dérangea. Il faisait à M. Boulanger des recommandations. « Un malheur arrive si vite, prenez garde, vos chevaux peut-être sont fougueux. » Elle entendit du bruit au-dessus de sa tête. C'était Félicité qui tambourinait contre les carreaux pour divertir la petite Berthe. L'enfant envoya de loin un baiser. Sa mère lui répondit d'un signe avec le pommeau de sa cravache.
« Bonne promenade !» cria M. Homais. « De la prudence ! Surtout de la prudence !»
Et il agita son journal en les regardant s'éloigner. Dès qu'il sentit la terre, le cheval d'Emma prit le galop. Rodolphe galopait à côté d'elle. Par moments, ils échangeaient une parole. La figure un peu baissée, la main haute et le bras droit déployé, elle s'abandonnait à la cadence du mouvement qui la berçait sur sa selle. Au bas de la côte, Rodolphe lâcha les rênes. Ils partirent ensemble d'un seul bond, puis, en haut, tout à coup, les chevaux s'arrêtèrent et son grand voile bleu retomba. On était au premier jour d'octobre.
Il y avait du brouillard sur la campagne, des vapeurs s'allongeaient à l'horizon contre le contour des collines. Et d'autres se déchirant, montaient, se perdaient. Quelquefois, dans un écartement des nuées sous un rayon de soleil, on apercevait au loin les toits d'Yonville avec les jardins au bord de l'eau, les cours, les murs et le clocher de l'église. Emma fermait à demi les paupières pour reconnaître sa maison. Et jamais ce pauvre village où elle vivait ne lui avait semblé si petit. De la hauteur où ils étaient, toute la vallée paraissait un immense lac pâle, s'évaporant à l'air. Les massifs d'arbres de place en place saillissaient comme des rochers noirs, et les hautes tiges des peupliers qui dépassaient la brume figuraient des grèves que le vent remuait. À côté, sur la pelouse entre les sapins, une lumière brune circulait dans l'atmosphère tiède. La terre roussâtre comme de la poudre de tabac amortissait le bruit des pas. Et du bout de leur fer, en marchant, les chevaux poussaient devant eux des pommes de pin tombées. Rodolphe et Emma suivirent ainsi la lisière du bois. Elle se détournait de temps à autre afin d'éviter son regard. Et alors, elle ne voyait que les troncs de sapins alignés dont la succession continue l'étourdissait un peu. Les chevaux soufflaient. Le cuir des selles craquait. Au moment où ils entrèrent dans la forêt, le soleil parut. « Dieu nous protège !» dit Rodolphe. « Vous croyez ? » fit-elle. « Avançons, avançons !» reprit-il. Il claqua de la langue. Les deux bêtes couraient. De longues fougères au bord du chemin se prenaient dans l'étrier d'Emma. Rodolphe, tout en allant, se penchait et il les retirait à mesure. D'autres fois, pour écarter les branches, il passait près d'elle et Emma sentait son genou lui frôler la jambe. Le ciel était devenu bleu. Les feuilles ne remuaient pas. Il y avait de grands espaces pleins de bruyères tout en fleurs. Et des nappes de violettes s'alternaient avec le fouillis des arbres qui étaient gris, fauves ou dorés, selon la diversité des feuillages. Souvent, on entendait sous les buissons glisser un petit battement d'ailes ou bien le cri rauque et doux des corbeaux qui s'envolaient dans les chênes. Ils descendirent. Rodolphe attacha les chevaux. Elle allait devant sur la mousse, entre les ornières. Mais sa robe trop longue l'embarrassait, bien qu'elle la portât relevée par la queue, et Rodolphe, marchant derrière elle, contemplait entre ce drap noir et la bottine noire la délicatesse de son bas blanc qui lui semblait quelque chose de sa nudité. Elle s'arrêta. « Je suis fatiguée, » dit-elle. « Allons, essayez encore, » reprit-il, « du courage !» Puis, 100 pas plus loin, elle s'arrêta de nouveau, et à travers son voile, qui de son chapeau d'homme descendait obliquement sur ses hanches, on distinguait son visage dans une transparence bleuâtre, comme si elle eût nagé sous des flots d'azur. « Où allons-nous donc ?» Il ne répondit rien. Elle respirait d'une façon saccadée. Rodolphe jetait les yeux autour de lui et il se mordait la moustache. Ils arrivèrent à un endroit plus large où l'on avait abattu des baliveaux. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre renversé. Et Rodolphe se mit à lui parler de son amour. Emma l'écoutait, tête basse, et tout en remuant avec la pointe de son pied des copeaux par terre. Mais à cette phrase, « Est-ce que nos destinées maintenant ne sont pas communes ?»« Eh non, répondit-elle, vous le savez bien, c'est impossible !» Elle se leva pour partir. Il la saisit au poignet. Elle s'arrêta, puis l'ayant considérée quelques minutes d'un œil amoureux et tout humide, elle dit vivement « Ah, tenez, n'en parlons plus, où sont les chevaux? Retournons !» Elle eut un geste de colère et d'ennui. Elle répéta « Où sont les chevaux? Où sont les chevaux ?» Alors, souriant d'un sourire étrange et la prunelle fixe, les dents serrées, il s'avança en écartant les bras. Elle se recula, tremblante, elle balbutiait. « Oh, vous me faites peur, vous me faites mal, partons !»« Puisqu'il le faut, » reprit-il, en changeant de visage. Et il redevint aussitôt respectueux, caressant, timide. Elle lui donna son bras. Ils s'en retournèrent. Il disait « Qu'aviez-vous donc ?
Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Vous me prenez sans doute. Vous êtes dans mon âme, comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide et immaculée. Mais j'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée. Soyez mon ami, ma sœur, mon ange. »
Et il allongeait son bras et lui en entourait la taille. Elle tâchait de se dégager mollement. Il la soutenait ainsi en marchant. Il l'entraîna plus loin autour d'un petit étang où des lentilles d'eau faisaient une verdure sous les ondes. Des nénuphars flétris se tenaient immobiles entre les joncs. Au bruit de leurs pas dans l'herbe, des grenouilles sautaient pour se cacher. « j'ai tort, disait-elle, je suis folle de vous entendre. Pourquoi, Emma, Emma ? Oh, Rodolphe ! Fit lentement la jeune femme en se penchant sur son épaule. Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc, qui se gonflait d'un soupir, et, défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna.
Voilà donc cette dernière lecture d'une partie de Madame Bovary, le roman de Gustave Flaubert, que je vous laisserai terminer par vous-même. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.